Ouais, ça c'est de faire du multitasking. Alors bonsoir, merci d'être là en ce mois d'août, vous êtes en vacances, merci de prendre le temps d'être ici ce soir. Donc nous sommes le 4 août, il est 19h02. Sont présents ce soir pour cette séance ordinaire du conseil municipal Jonathan Bock, Joël Sabourin-Saulnier,
bonsoir.
Alexandre Leblanc,
bonsoir.
Harold Loubaltz,
bonsoir.
Sylvie Poulin,
bonsoir.
Ainsi que notre directeur général Benoît Dufour.
Bonsoir.
Est-ce que quelqu'un propose l'ouverture de la séance?
Je propose.
Proposé par Mme Poulin, merci. Ça nous amène au point 2, mot du maire. Donc, on a des petites choses à vous dire. Ce soir, je vais commencer par un dossier, peut-être un suivi d'un dossier qu'on a parlé le mois dernier, qui est Montréal Polymère. Vous êtes sûrement ici pour avoir un peu des nouvelles de ce qui s'est passé. Donc, comme vous savez, là, il y a eu un avis de non-conformité qui a été émis par le ministère de l'Environnement et puis la municipalité avait restreint, dans le fond, temporairement l'accès au site là, dans les dernières semaines à Montréal Polymère. Comme je l'ai dit le mois dernier, il y a eu une entente de collaboration qui a été exigée pour encadrer la décontamination et le retrait des matières plastiques un peu partout sur le terrain. Nous, ce qu'on demandait, c'est l'engagement formel de Montréal Polymère à procéder à une décontamination complète du site extérieur. On leur demandait la réalisation des tests de sol par une firme indépendante accréditée avec analyse des résultats par le ministère. On leur demandait aussi une date fixée au 31 juillet 2025 pour compléter les travaux et transmettre les résultats des tests. On leur demandait aussi l'obligation que les travaux soient réalisés par des professionnels qualifiés et que le tout soit encadré par une entente signée entre la Montréal Polymère et la municipalité. Donc, la municipalité a signé l'entente, Montréal Polymère ont également signé l'entente. On est allé ce matin faire une visite avec notre urbaniste. On a eu aussi la MMRC qui est allée aussi, donc les services incendie de la MMRC, notre service incendie à nous. Montréal Polymère n'ont pas atteint de loin les objectifs qui avaient été fixés. Ils ont débuté un semblant de nettoyage qui a été fait quand même, mais ce n'est pas du tout en lien avec l'entente qu'eux avaient signée. Parallèlement, on a eu d'autres informations. Eux, ils tendraient à faire le ménage. Ils sont en lien avec RLS présentement pour pouvoir envoyer les produits chez RLS. Ils ont un problème là où est-ce que dans le fond, il y a des contenants qui contiennent des liquides. Donc, RLS ne sont pas en mesure de recevoir des liquides. Ils reçoivent des matières sèches seulement. Donc, ils sont un peu pris avec ça. Le ministère a exigé à Montréal Polymère que toute trace de particules plastiques soit retirée du sol et que toute contamination détectée fasse l'objet d'un traitement dans un lieu autorisé. On a reçu cette confirmation-là du ministère entre-temps. Puis, dans le fond, nous, ce qu'on s'engage à faire par la suite, c'est qu'on leur donnerait un délai de 15 jours à compter du 31 juillet pour finaliser les travaux exigés. Puis, ils ont quand même démontré, ils ont quand même, je vous dirais là, que peut-être 25 à 30 % des matières plastiques ont quand même été retirées en arrière de la cour, mais c'est loin d'être suffisant. Mais ce sera un 15 jours ferme. À défaut de respecter ce nouveau délai-là, bien, la municipalité va restreindre à nouveau l'accès indéfiniment au bâtiment, puis après ça, il y aura des mesures légales qui vont être entreprises. Nous, c'est sûr que c'est le ministère de l'Environnement qui nous ont fortement suggéré de collaborer avec Montréal Polymère. Je pense qu'en donnant un 15 jours supplémentaires pour effectuer les travaux exigés, ça démontre qu'on a une certaine forme d'ouverture. Moi, je doute fortement que ça va être fait, mais on verra d'ici là. Puis la municipalité va suivre de près ce dossier-là afin d'assurer la conformité environnementale, la sécurité du site, la protection de la nappe phréatique. Et on continue à faire une surveillance aussi des lieux. Donc nos pompiers sont avertis. Lorsqu'on voit des camions, lorsqu'on voit du mouvement, on va toujours faire une visite. Donc c'est là qu'on en est pour l'instant. Nous, on attend aussi une communication de la part du ministère de l'Environnement parce qu'on leur a dit que les objectifs n'avaient pas été atteints. On attend une réponse de leur part parce que c'est eux qui nous ont fortement suggéré, comme je l'ai dit, de prendre une entente de collaboration. Donc, ce 15 jours-là, ça va nous laisser le temps d'avoir des retours du ministère de l'Environnement, puis de voir qu'est-ce qu'on fait par la suite. Je ne vous mentirai pas que par la suite, ben si après 15 jours, il n'y a toujours rien qui fait, mais là, ça va vraiment être nos avocats qui vont être dans le dossier. Puis, rendu là, ben, on va voir quel chemin qu'on va entreprendre. Maintenant, toujours dans le mot du maire, j'ai un petit mot du maire. Ce soir, qui était pensé pour refléter un peu la dynamique actuelle du conseil municipal, une dynamique que je considère, puis je pense que les collègues aussi, de collaboration, de rigueur et d'évolution. Vous allez voir, il y a plusieurs décisions à l'ordre du jour ce soir qui illustrent bien cette nouvelle approche-là, qui est ancrée dans une vision qu'on partage ici autour de la table, qui est partagée aussi avec notre directeur général. Notre DG nous rappelle souvent qu'il existe deux piliers fondamentaux dans la gouvernance municipale, c'est-à-dire les résolutions, qui sont les directives adoptées par le conseil municipal et qui doivent être exécutées par les employés municipaux, ainsi que les règlements qui constituent un peu l'ossature légale qui permettent aux équipes de terrain d'agir dans un cadre structuré et prévisible. Donc, le rôle de la direction générale est non seulement de s'assurer que les résolutions soient complétées, mais aussi d'évaluer en continu nos outils réglementaires, c'est-à-dire lorsqu'un règlement devient désuet ou inadapté, le directeur général et notre greffier trésorier a le devoir d'en informer le conseil, puis de proposer une mise à jour en collaboration avec celui-ci. C'est justement garantir que notre encadrement évolue avec les réalités de terrain et les besoins des citoyens. Vous allez voir ce soir, il y a plusieurs résolutions qui vont dans ce sens-là. Par la suite, comme il mentionne aussi souvent notre DG, les règlements sont aussi les balises du chemin et les procès-verbaux, eux, sont l'histoire de la municipalité. Donc, lorsqu'on regarde les procès-verbaux, c'est la raison pour laquelle on les publie sur le site web, vous pouvez un peu voir un historique de ce que la municipalité fait. C'est là-dedans aussi que vous pouvez un peu voir la vision, la progression des dossiers, la vision qu'on se donne. Notre directeur général nous mentionne aussi que l'année 2024 a été marquée par un certain ralentissement dans l'implantation de nouvelles méthodes de gestion. C'était une période d'adaptation qui était nécessaire pour bâtir des bases solides. Cependant, l'année 2025 avance bien. Les outils, pour ceux qui viennent souvent, vous avez sûrement constaté qu'on met beaucoup d'outils en place. Ces outils-là, ces méthodes s'enracinent, et les changements se font déjà sentir sur le terrain. On commence vraiment à le constater depuis quelques mois. Comme on le sait, on anticipe quand même un léger ralentissement, probablement à l'automne, en raison des élections municipales. Bien évidemment, toutes les municipalités vivent cette période-là. Mais notre volonté demeure ferme, c'est-à-dire dès 2026, la direction générale reprendra avec intensité le déploiement des nouvelles méthodes de travail afin que Ripon puisse se doter d'une équipe municipale à la hauteur des attentes des citoyens. La période actuelle symbolise aussi que c'est un peu une nouvelle ère qui débute pour Ripon grâce à une direction rigoureuse, à l'alignement des politiques du conseil et à une volonté constante d'amélioration. La municipalité est désormais mieux outillée que jamais pour relever les défis d'aujourd'hui et de demain. Aussi, dans un souci d'amélioration continue, notre DG m'avait demandé la permission de faire analyser par un consultant externe en ressources humaines les procès-verbaux de la période 2020 à 2025. L'objectif de cette analyse, en fait, c'est assez simple, c'est de porter un regard neutre et structuré sur notre gestion et sur sa gestion en lui-même afin d'identifier les leviers de progression future en cohérence avec notre mission municipale. Lors d'une visite auprès de la municipalité, des municipalités voisines pour peaufiner une demande de subvention, notre DG, et là c'est lui qui parle, a été vraiment frappé par la différence de dynamique qu'il y avait dans d'autres conseils municipaux. On le voit aux nouvelles, il y a des municipalités où c'est plus difficile. Des fois, il y a des conseils municipaux où c'est plus tendu. Il y a des tensions internes. Ici, c'est pas le cas. Ici, on a beaucoup de plaisir. Comme vous pouvez le voir, on est capable de rire en conseil municipal. Et puis, on est très fiers de ça, d'avoir cette ambiance-là là, autour de la table ici. Là, c'est notre DG qui parle. Une parole marquante lui a été adressée lors de ses rencontres entre DG. Il se fait souvent dire que notre conseil est allumé et envié. Une affirmation qu'il a lui-même été confirmée dans ses échanges avec d'autres DG. Puis ça, même moi, souvent, c'est quelque chose qu'on se fait dire. On se fait souvent dire, qu'est-ce que vous mettez dans l'autre iPhone? Il faut que ça soit dynamique comme ça. Je pense que c'est les citoyens aussi qui rendent ce dynamisme-là possible. On va maintenant effectuer une lecture du résumé de l'analyse dont je parlais. C'est M. Sabourin, Sonny Sabourin, qui va vous la faire. Et puis, on va revenir avec une conclusion par la suite. Sabourin?
Oui, je vais essayer de paraphraser un peu là, le résumé de l'analyse. C'est quand même quelques pages. Je vais vous éviter, mais je vais résumer les grandes lignes. Donc, entre 2020 et 2023, la gestion municipale de Ripon fonctionnait surtout de manière réactive. C'est un peu d'ailleurs ce que j'ai remarqué en arrivant ici personnellement. Autrement dit, on réagissait aux situations quand elles survenaient, cas par cas, sans véritable plan à long terme. Il y avait peu de suivi, peu d'outils pour évaluer les résultats et beaucoup de changements de direction. Ce roulement fréquent de personnel a nuit au développement de la municipalité, en plus de rendre difficile la mise en place de bases solides et durables. Chaque dossier était souvent traité à part, sans lien avec une vision globale pour l'avenir de la municipalité. On réglait les problèmes au fur et à mesure, sans structure claire. L'analyse de cette période montre donc qu'il était grand temps de passer à une nouvelle façon de faire, plus organisée, avec une vision à long terme pour mieux servir les citoyens et protéger nos actifs municipaux. Pour ce qui est de 2023-2025, le Conseil municipal de Ripon s'est réuni régulièrement à raison d'une séance mensuelle démontrant une stabilité politique et une rigueur organisationnelle. Le travail en étroite collaboration avec le directeur général et greffier trésorier a permis de structurer les actions du Conseil autour de priorités claires et réalistes. Depuis 2024, un véritable virage s'est amorcé. Sous la direction actuelle, Ripon a adopté une approche proactive guidée par une vision claire, celle du Conseil municipal. Cette vision se traduit concrètement par la mise en place de processus modernisés, d'une meilleure planification et d'un engagement constant à informer le Conseil de façon rigoureuse sur chaque action entreprise et chaque décision opérationnelle. Le nombre et la qualité des projets initiés, la structuration des suivis et l'implantation de contrôles financiers et humains démontrent une amélioration marquée. On observe également une hausse notable du nombre de résolutions et de complexité des dossiers abordés, preuve d'une gouvernance plus engagée et plus rigoureuse. En somme, cette comparaison met en lumière une administration qui a quitté un mode de gestion ponctuel et réactive pour s'inscrire dans une dynamique de transformation au bénéfice direct des citoyens et de la pérennité des actifs municipaux. Cette approche assure que les élus disposent de l'ensemble des faits, analyses et recommandations pertinentes leur permettant d'exercer pleinement leur rôle de décideur dans l'intérêt de la population. Regard rétroactif 2020-2025, focus 2024-2025. À l'analyse de l'évolution de la municipalité de Ripon depuis les années 2020 permet de mieux saisir l'ampleur des transformations survenues en 2024-2025. Alors que les deux premières décennies du siècle ont été marquées par une gestion de proximité parfois intuitive, les années récentes, et plus particulièrement 2024-2025, se démarquent par un virage administratif profond et structurant. Virage administratif majeur et renforcement du contrôle des dépenses et des actifs. L'arrivée d'un directeur général et greffier trésorier rigoureux a permis de renforcer l'encadrement stratégique de la municipalité. Des mécanismes internes de contrôle ont été mis en place pour assurer une gestion saine des finances, des ressources humaines et des processus administratifs. La culture de gestion évolue vers une approche proactive, structurée et orientée résultats. La municipalité a structuré un inventaire de ses équipements, revu ses pratiques contractuelles et adopté un règlement ajustant la tarification des droits de mutation, contribuant à une meilleure prévisibilité financière. Depuis 2025, une logique d'analyse du cycle de vie des équipements a été instaurée. Les décisions d'investissement reposent désormais sur des critères objectifs et planifiés. L'administration optimise également l'utilisation des subventions disponibles pour améliorer ses infrastructures tout en maîtrisant ses finances. On en aura des exemples encore aujourd'hui. Modernisation des ressources humaines. Alors que les années antérieures ont parfois connu des divisions ou des changements fréquents, la gouvernance de 2025 s'appuie sur une vision partagée et un engagement collectif. Le conseil municipal agit avec une plus grande cohésion dans une logique de développement durable et structurant. De nouveaux postes stratégiques ont été créés, les outils RH ont été renforcés et un accompagnement a été offert au personnel en place afin d'en améliorer les compétences et la mobilisation. Une communication renforcée avec les citoyens et amélioration des requêtes citoyennes. Comparativement aux pratiques des années précédentes, les années 2024-2025 marquent un tournant majeur dans les communications municipales. Les enjeux sont désormais mieux expliqués, les décisions sont accompagnées de documents clairs et accessibles et l'information est partagée plus efficacement avec les citoyens. Ces derniers profitent d'un accès simplifié, transparent et régulier aux actions de la municipalité. Le traitement des requêtes et des plaintes a également connu une nette amélioration. Chaque demande est désormais suivie avec rigueur grâce à une meilleure traçabilité, un encadrement administratif plus structuré et une diffusion accrue de l'information pertinente. La municipalité travaille également au développement d'un guichet numérique intégré qui viendra encore renforcer l'efficacité de la transparence et la proximité des citoyens. C'est presque fini. Projet structurel pour l'avenir. Finalement, je vais apprendre la bouteille d'eau tantôt. Afin de soutenir efficacement la prise de décision du conseil municipal et de maximiser les retombées pour la communauté, l'administration générale élabore systématiquement la documentation requise selon la complexité des projets. Cela inclut la réalisation d'études de faisabilité ainsi que la préparation de plans et devis techniques conformes aux exigences des programmes gouvernementaux. On a plusieurs exemples en tête. Cette rigueur permet à la municipalité de déposer des demandes de subventions complètes et stratégiques pour des projets structurants, notamment la mise aux normes du centre communautaire, la mise aux normes de la station d'aqueduc, la réfection de la montée Guindon, sécuriser la route 315, la correction et la réparation de plusieurs ponceaux, la réfection planifiée des routes dans une perspective de pérennisation des actifs, de développement durable et de réduction des dépenses d'entretien, le développement encadré de la montagne noire, l'embellissement de la place du marché, l'amélioration des aménagements du parc municipal, la sécurisation du réseau routier et la protection des citoyens, l'élaboration d'un plan de sécurité civile amélioré et la formation du personnel en lien avec celui-ci, l'amélioration globale de la santé et la sécurité au travail en intégrant la formation continuelle. Ces projets structurés en fonction des besoins réels et des objectifs du Conseil s'inscrivent dans une planification rigoureuse et une vision claire du développement de Ripon. Il démontre que l'administration municipale agit en amont avec méthode pour permettre au conseil de poser des gestes concrets et responsables au bénéfice de la population. Et dernièrement, pour finir, une transition numérique amorcée. En 2025, la municipalité commence à moderniser ses outils numériques, notamment en matière de services aux citoyens, de gestion interne et de diffusion de l'information. Cette transition marque une nouvelle étape vers une administration plus accessible, efficace et transparente. Merci.
Merci, M. Sournier. Merci beaucoup. À la fin, vous avez justement vu, ce soir, il n'y a pas beaucoup de points à l'heure du jour, donc on s'est dit comment on pourrait les garder un peu plus longtemps. Donc, Mais merci, M. Sournier. Dans le fond, puis moi, je termine en disant, c'est un peu un bilan de ce qu'on a fait. Je remercie les collègues, puis M. Dufour. Moi, je suis arrivé ici là, aussi en milieu de mandat. J'avais pas nécessairement d'expérience. J'ai pu approfondir mes connaissances avec les collègues, avec M. Dufour. Là. Merci tout le monde là, pour la patience là, pour ça. C'est sûr que vous allez voir ce soir pourquoi on vous nommait ça aussi, parce que ce soir, vous allez voir, il y a beaucoup de points ce soir qui s'inscrivent dans une vision. Puis on voulait vous expliquer, puis on va les expliquer les points un peu plus tard dans la séance. Là, mais vous allez voir, c'est des points assez majeurs. Puis ça va probablement. Peut-être faire comprendre à certains pourquoi, disons, à l'hiver dernier, on a fait tel choix, mais vous allez avoir des éléments clairs là-dessus ce soir. Donc, il y a vraiment des points majeurs là, ce soir, comme je disais, qui s'inscrivent dans la vision. Et puis, c'est un peu pour ça là, qu'on voulait vous faire un petit compte-rendu. Ça nous amène donc au point 3, ordre du jour. Vous avez tous reçu l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un la propose?
Je propose.
Proposé par M. Vaubout. Et ça nous amène au point 4, procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 juillet dernier. Vous avez tous reçu l'ordre du jour par courriel. Est-ce que quelqu'un propose? M. Bock. Ça nous amène au point 5, questions du public. La parole est à vous. Est-ce qu'il y a des questions ce soir? Madame Bernard.
Nicole Bernard,
36
chemin du Lac-Rouleau. Je voulais savoir à propos de Montréal Polymère, est-ce que les employés ont recommencé le travail à l'intérieur?
Semblerait que non.
Mais on en doute fortement. Là,
ben, les véhicules des dites personnes étaient présents aujourd'hui.
Oui, puis nous, on a visité les intérieurs, l'intérieur du bâtiment. On a vu qu'il y a des choses qui ont bougé.
C'est correct s'ils recommencent, je suppose?
Bien, en fait, ils devaient faire le nettoyage avant de recommencer les opérations. Puis même la CNSST leur a dit qu'ils ne pouvaient pas recommencer à travailler parce qu'ils ont des enjeux avec la CNSST aussi assez majeurs. Puis l'environnement leur avait dit aussi, vous devez cesser toute opération en attendant qu'on fasse la lumière sur tout ça. Donc, ouais.
Puis une autre question. À propos des feux d'artifice, on sait que c'est défendu dans le village de Ripon. communauté de Ripon, on en a entendu jeudi. Mais à ce moment-là, si on veut savoir, si on veut que quelqu'un agisse, étant donné que c'est toujours les fins de semaine, on ne peut pas rejoindre la municipalité, y a-t-il d'autres moyens?
Sortez du Québec,
là. Oui, puis c'est ça.
Sortez du Québec,
vous allez. Ils vont se mêler de la politique de Ripon.
Non, mais les feux d'artifice, c'est, ils vont quand même les faire un tour.
Ça, c'est un peu la difficulté de l'application du règlement. Vous avez raison, c'est que nous, on a beau faire un règlement, mais on n'a pas de police municipale. Malheureusement, les fins de semaine, normalement, c'est la SQ qui est en charge d'intervenir. Mais c'est certain que si vous appelez, vous dites, le soir, quelqu'un qui fait des feux d'artifice, il y a un policier sur le territoire la nuit, les chances qu'il vienne. C'est sûr que nous, on se fie aussi sur le bon voisinage. Si vous voyez des choses, vous pouvez toujours écrire à la municipalité. C'est avec notre système de plainte, c'est anonyme. Dire j'ai vu. T'sais, nous, c'est sûr qu'on fait plus de la sensibilisation. On n'est pas dans les amendes, rien de ça. Donc, si vous voyez des gens faire des feux d'artifice, c'est de nous écrire. Puis nous, on peut sensibiliser ces citoyens. Des fois, des gens qui ne savent pas non plus. Des fois, des touristes aussi. Donc, mais vous avez raison. C'est un peu la difficulté d'application du règlement, malheureusement.
Si vous savez à quel endroit que c'est, des fois, on fait un avertissement. On envoie une lettre là, aux gens. Là.
Merci.
Merci.
Islande, 14 minutes. Bonsoir.
Bonsoir.
Je voudrais faire un suivi sur le dossier qui m'a amené à vous rencontrer en octobre dernier. Vous constaterez comme moi qu'ils n'ont pas fait de rencontre pour le public. Je constate comme vous que le rallye va avoir lieu en septembre. Je voudrais vous remercier. Je sais que c'est des dossiers qui sont longs. Il y a des parties prenantes qui ne seraient pas d'accord avec ma demande. Je suis très consciente que c'est des dossiers qui peuvent créer des clivages dans une communauté. Fait que je vais vous dire merci de vous en être soucié. Je vais continuer, c'est sûr, à me préoccuper d'écologie. Ça fait partie de, je pense, une responsabilité que nous avons tous comme citoyens. Mais je tenais à vous dire merci pour l'attention que vous avez portée à ma demande et vous encourager à continuer votre bon travail. Vous avez le choix de l'étendre.
Merci, Mme Allende. Puis ça peut vous encourager aussi. On a une présentation qui est prévue au Conseil des maires le prochain, en fait, là, sur le sujet. C'est suite à la demande qu'on leur a dit là. On a des questions. Donc, eux vont venir faire une présentation. Malheureusement, c'est pas ouvert au public. Là. C'est pendant une plénière.
Okay.
Mais si vous avez le temps, j'encourage aussi, si vous pouvez venir poser la question au Conseil des maires, une question qui est ouverte au public aussi. Là, ça peut des fois peut-être sensibiliser certains maires, peut-être qu'ils ne sont pas au courant. Je peux vous donner l'information après la séance, si vous voulez. Normalement, c'est toujours un mercredi, au milieu du mois, normalement, dans le deuxième ou le troisième mercredi du mois, c'est la formule. Mais après la séance, si vous voulez, ou par courriel, je pourrais vous envoyer les heures et les dates.
Merci.
D'autres questions? Merci. Ça nous amène donc au point 6, la section administration et finances et ressources humaines. Rapport des responsables, M. Hubolt.
Oui. J'ai aussi un texte que j'ai préparé parce qu'on veut parler beaucoup. M. Saunier a parlé en gros de qu'est-ce qui se passe à la municipalité au niveau gestion administratif. Et puis, naturellement, dans notre comité, on a beaucoup plus de détails sur l'implantation. Alors, je voulais juste mentionner, on a engagé notre directeur général, M. Dufour, parce qu'il avait justement des forces dans l'organisation de l'administration municipale. Et puis, dès son arrivée, il nous avait posé une première question, c'était quelle est notre vision pour Ripon. Et puis c'était vraiment pour avoir un peu plus de contrôle sur qu'est-ce qui se passait, les employés. On voyait qu'il y avait certaines problématiques et puis le conseil s'était devenu quelque chose de très routinier, mais on voulait plus s'impliquer et avoir de l'information pour prendre une décision. Et ils ont concrétisé que lui, vraiment son rôle, c'est que nous décidons, le conseil, et puis la direction générale planifie pour qu'on y arrive. Dès 2024, il a exprimé sa volonté d'implanter une méthode de gestion administrative éprouvée qu'il avait déjà mis en place avec succès dans d'autres organisations. Cette approche repose d'abord sur la création d'un milieu de travail accueillant où chaque employé peut mettre à profit ses forces, travailler de manière autonome et contribuer pleinement au succès de l'équipe. Chacun évolue sous les directives inspirantes de la direction, qu'il s'agit de soutien et en guide, orientant les efforts individuels et collectifs vers l'atteinte des objectifs de l'organisation. Donc, c'était la première place, c'était vraiment de changer un petit peu la culture, de responsabiliser les employés à faire leur job et prendre à cœur leur job. Dans le cadre proposé, s'appuie sur des règles claires, mais non contraignantes, offrant une structure souple qui encourage l'initiative, l'engagement et la responsabilisation. Ce climat de travail inspirant est appuyé par l'implantation d'un système de gestion informatisé moderne conçu pour alléger la charge administrative, accélérer le traitement des dossiers et surtout améliorer la planification, le suivi et l'efficacité des interventions municipales auprès des citoyens. Conscient de l'ampleur du défi, la majorité des municipalités au Québec fonctionnant encore selon une logique réactive plutôt que proactive et stratégique, notre DG savait que ce changement de culture exigeait du temps et de la pédagogie et une mobilisation continue. Dans cet esprit que l'année 2024 a été consacrée à instaurer une nouvelle culture organisationnelle fondée sur le respect. Est-ce que je me répète un peu ici? Je suis rendu plus loin. Bon. Fondée sur le respect des citoyens, des élus, des règlements et des résolutions. Il a également insisté sur l'importance pour chacun des employés de bien comprendre son rôle, ses responsabilités, ainsi que les outils municipaux mis à sa disposition. En janvier 2025, l'implantation d'un système a été officiellement débutée. Une mise en œuvre active a suivi en avril avec une période de rodage s'échelonnant jusqu'en juin 2025. Ce système de gestion est le même qui est utilisé au Centre Bell par l'Organisation des Canadiens de Montréal pour la gestion de leurs équipements et de leur personnel. C'est un outil reconnu, robuste et hautement efficace. C'est le système qu'on appelle maintenance directe.
Oui, c'est ça.
Aujourd'hui, cet outil de gestion est un véritable levier stratégique pour notre équipe administrative. Il nous permet de traiter des problématiques quotidiennes avec rigueur tout en structurant nos actions à long terme. Ce soir, à travers les différents rapports des comités, vous pouvez constater par vous-même le fruit du travail exceptionnel accompli. Les membres de l'équipe ne seront pas nommés individuellement, mais leur contribution est évidente derrière chaque amélioration et chaque projet réalisé. Le directeur général ne cesse de souligner la chance qu'il a de pouvoir compter sur une équipe aussi dévouée. Dès le début de 2026, nous procéderons au déploiement du module d'entretien préventif. Cette prochaine étape nous permettrait de détecter plus rapidement les anomalies, de prévenir les défaillances et d'intervenir avant que les problèmes ne surviennent. Les bons correctifs deviendront alors des exceptions identifiées dans le suivi hebdomadaire, ce qui nous permettrait de cibler les problématiques récurrentes et de les corriger et d'informer les citoyens de façon transparente. Alors, l'idée, c'est d'être à l'avant de quand les choses arrivent, de détecter les problèmes avant que les citoyens viennent nous dire et se plaignent que ce n'est pas fait, etc. Lors de la phase de rodage du 1er avril au 1er juin, 12 bons correctifs avaient été initialement prévus. De ceux-ci, 10 ont été réalisés dans les délais, tandis que 8 autres ont été complétés, mais en dehors des échéances fixées. Cette situation s'explique par le fait que le système de gestion était encore en implantation et que plusieurs ajustements étaient nécessaires, tant au niveau de l'organisation interne que l'approbation des outils par les équipes. Durant la phase d'envol du 1er juin au 1er août, évidemment, la tendance s'est renversée. Bien que seulement 8 bons étaient planifiés pour cette période, 15 ont été réalisés dans les délais et seulement 3 l'ont été en retard. Cela démontre une nette amélioration du rendement et une montée en compétence de l'équipe administrative dans l'utilisation du système. Il est important de souligner que ces chiffres doivent être interprétés avec prudence. En contexte de rodage, les écarts entre le prévisionnel et le réel sont normaux. Plusieurs bons correctifs ont été ajoutés en cours de route, notamment en réponse à des urgences ou des priorités émergentes. Par ailleurs, les délais de réalisation sont actuellement saisis manuellement, ce qui limite l'automatisation et du suivi. Bon. Finalement, permettez-moi de vous exposer le fonctionnement administratif que nous avons pris, que nous avons mis en place et la rigueur qui accompagne chacune de nos décisions. Pour permettre de prendre des décisions éclairées, notre équipe administrative nous présente désormais des dossiers à la table du conseil selon un ordre de priorité établi avec une méthode pour chaque division départementale. Cette démarche vise à assurer une gestion cohérente, structurée et financièrement responsable, centrée sur des besoins réels de la municipalité. Bon. Alors, je vais conclure ça là et je vais m'attaquer
au point 6,
aux finances, aux dépenses de ce mois-ci, qui était un total de 550 157 $. Et juste pour vous passer à travers, ça semble un gros montant, mais là-dedans, il y a il y a une quote-part de la MRC de quasiment 45 000 $ qu'on a payé. On a aussi l'achat de nouvelles niveleuses, parce que la niveleuse qu'on a annoncée au dernier conseil était défaillante et c'était le temps de le réparer. Donc, on a trouvé un autre. C'est un total de 109 000, mais ça inclut les taxes. Donc, il va y avoir un certain remboursement. On a aussi plusieurs l'équipe Laurence d'ingénierie, un 18 000. Ça, c'est pour des études techniques qu'on prend, entre autres, pour l'aqueduc, si je me souviens bien. Et voilà un autre, Parage Lafleur, quasiment 99 000. Ça, c'était pour la route 315. Juste un dernier, juste pour votre intérêt, quasiment 50 000 qu'on doit au gouvernement supérieur pour les taxes et les choses pareilles. Ça coûte de l'argent.
Merci, M. Hubolt, qui propose le point 6.2.
Bravo.
M. Bock, quelqu'un demande le vote? Adopté. Ça nous amène au point 6.3, offre de service et implantation de la plateforme de gestion de main-d'œuvre Evolia. Comme on l'a mentionné tantôt, là, on tente vraiment d'améliorer nos pratiques de gestion des ressources humaines, notamment en matière de planification et de suivi de nos horaires. Le programme Evolia, c'est un programme qui ne coûte pas si cher. C'est un tarif de 4,50 par employé par mois avec un frais d'implantation de 500. Donc, c'est vraiment pour mieux gérer tous nos outils de ressources humaines. Il y a la possibilité d'implanter un punch, disons, pour la voirie, pour s'assurer que nos, par exemple, l'hiver, ceux qui conduisent les véhicules lourds ne dépassent pas leurs heures. C'est pour vraiment mieux contrôler. Puis c'est aussi pour aider notre équipe en bas parce que souvent, des feuilles papier écrites à la main, des fois, on ne comprend pas. Des fois, il manque des informations. Donc, ça va tout être fait informatisé. Donc, ça va faciliter beaucoup le travail de notre équipe administrative. Donc, on a une résolution aussi pour que le conseil municipal accepte l'offre de services Devolia pour l'implantation de la plateforme de gestion de main-d'œuvre au sein de la municipalité de Ripon. Comme je le disais tantôt, là, au tarif de 4,50 par employé et un frais unique d'implantation de 500 $ qui propose.
Proposé.
M. Leblanc, qui fait demande le vote. Adopté. 6.4, embauche de personnel électoral pour l'élection du 2 novembre 2025. Comme vous savez, à l'automne, il va y avoir des élections. C'est nécessaire de procéder à l'embauche de personnel électoral pour tenir nos élections ici à Ripon. Comme vous savez aussi, on va aussi être responsable de faire le vote pour le préfet élu au suffrage universel. Ça va être la première fois. Donc, c'est les municipalités qui sont responsables d'organiser ça dans leur municipalité. Donc, on a une résolution ici pour dire que M. Dufour soit autorisé à embaucher les hauts besoins de personnel électoral requis pour la tenue d'élection du 2 novembre 2025 et que la rémunération du personnel soit versée conformément aux règlements qui sont les tarifs de rémunération payables lors de l'élection des référendums qui sont donnés par le ministère des Affaires municipales. Pose Mme Poulin. Quelqu'un demande le vote? Adopté. 6.5, adoption du règlement 2025-07-002 relatif au droit de mutation immobilière pour la portion de la base d'imposition inférieure ou égale à 500 000 $. Donc, le 7 juillet dernier, à la dernière séance, il y a eu une avis de motion qui est donnée à cet effet-là. J'ai expliqué un petit peu, là, c'était quoi un peu l'idée derrière. En fait, c'est que c'est pour mettre un peu à jour, là, notre règlement qui est sur le droit de mutation immobilière. Lorsqu'on achète une maison, qu'on appelle ça la taxe de bienvenue, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas été revue. Faisait les maisons aujourd'hui à 300 000, il y en a beaucoup. Si on recule d'il y a 20-30 ans, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, on a baissé le taux pour pas que nos citoyens se fassent trop taxer, disons, là, lors de l'achat d'une nouvelle maison. Et on a une résolution ici pour que le conseil municipal adopte le règlement numéro 2025-0702 qui modifie le taux de mutation immobilière pour la portion de la base d'imposition excédant 500 000 $ et confirmant que pour la portion inférieure ou égale à 500 000 $ également. Donc, quelqu'un propose? Proposé par M. Saulnier. Quelqu'un demande le vote? Adopté. Ça nous amène à la section 7, travaux publics, rapport des responsables, M. Hubolt.
On n'aura pas de rapport.
On n'a pas de rapport
en ce moment.
Donc, on va passer à une portion qui est
une... On a un rapport de Alexandre.
Oui.
Oui, ça va être après. Donc, on va passer à M. Hubolt, après on viendra à M.
Leblanc.
Donc, on va une nouveauté ce mois-ci. On s'est dit qu'on ferait de temps en temps le portrait d'un ou d'une élue pour que vous puissiez apprendre à connaître qui vos élus, c'est quoi leur rapport à la municipalité, un peu humaniser le conseil municipal aussi. Donc, on a M. Hubolt.
Finalement, j'ai quelque chose. Monsieur le maire est membre du conseil. Ce soir, nous présentons deux conseillers municipaux afin de mieux connaître à la population, faire connaître à la population les personnes qui siègent au conseil municipal et qui travaillent au quotidien pour faire avancer les dossiers de la municipalité. Alors, cette initiative avait été proposée par notre DG. Il voyait pertinent de mettre en lumière l'engagement et le parcours des élus municipaux. C'est donc avec fierté que je vous présente Mme Sylvie Poulain, conseillère municipale de Ripon depuis 20 ans, et tout le monde naturellement connaît Sylvie, mais on fait un point de souligner son engagement ce soir. Et vous faites sa fidélité à sa communauté. Depuis presque deux décennies, elle siège avec rigueur et respect et persévérance. Et elle est une des personnes qui connaît le mieux la dynamique municipale de Ripon. Au fil de ses mandats, Mme Poulain a siégé sur plusieurs comités municipaux, notamment le comité de loisirs et de la culture, où elle a soutenu de nombreuses initiatives citoyennes. Le comité de l'environnement, dans lequel elle a contribué à plusieurs avancées en matière de gestion durable et la gestion des matières résiduelles. Et divers comités spéciaux liés à des fêtes communautaires et à l'engagement, à l'aménagement des parcs et du mieux-être collectif et surtout la beauté de notre municipalité est très impliquée là-dedans. Parmi les projets récents auxquels elle a activement contribué, Mme Poulin a piloté, c'est marqué avec moi, mais c'est Mme Poulin qui vraiment a mené et puis a poussé pour avoir ce projet-là, je dois dire. Moi, je ne faisais que l'aider. J'espère que c'est de l'aide appréciée.
Oui, tout à fait.
Le projet de compostage municipal, un projet structurant qui n'est qu'à ses débuts, mais qui connaît déjà un franc succès. Pour le mettre en place, nous avons pris le temps d'observer les pratiques de plusieurs autres municipalités et d'en retirer les meilleures leçons afin de les adapter à la sauce riponnaise. Ce projet est conçu pour être évolutif, modulable et afin de devenir plus de plus en plus performant au fil des temps. Mme Poulet est également responsable du projet Les Fleurons du Québec, une initiative qu'elle a littéralement tenue à bout de ses bras depuis ses débuts. Grâce à son travail soutenu, sa coordination et sa passion pour l'embellissement, Ripon a obtenu la distinction de 3 fleurons, une reconnaissance provinciale qui témoigne de la qualité de nos aménagements paysagers et de l'implication de la collectivité. Ceux et celles qui la côtoient savent qu'elle incarne un esprit communautaire profondément ancré, toujours empreint de bienveillance. Elle est aussi connue bien au-delà de Ripon. D'ailleurs, notre DG a récemment découvert que plusieurs citoyens, tant de Ripon que les municipalités environnantes, la surnomment affectueusement Madame Sourire. Ce surnom trouve son origine dans sa carrière professionnelle. Madame Poulin, qui était hygiéniste dentaire pendant plusieurs années, elle a parcouru la région pour éduquer les enfants sur l'importance de la santé dentaire avec un enthousiasme et une douceur qui ont marqué les mémoires. Dans la sphère privée, elle cultive plusieurs passions, notamment la nature, le jardinage, les randonnées et tout ce qui favorise la proximité avec les gens et leur mieux-être. Il ne faut pas oublier sa profonde implication dans la conservation de la pureté de l'eau du lac Bissolois, un véritable joyau municipal de Ripon, dont elle est une grande protectrice, et c'est vrai.
C'est très vrai.
Elle se donne beaucoup pour le lac Bissolois, puis c'est grâce à des personnes comme ça qu'on peut maintenir un petit peu au lac. Elle travaille également avec ardeur sur l'embellissement de la municipalité, convaincue que la beauté du milieu de vie contribue à la fierté collective et la qualité de vie de tous. Être conseillée à Ripon dans une municipalité, c'est un rôle exigeant. Il faut conjuguer des attentes de ses citoyens, les contraintes administratives et les responsabilités collectives. Sylvie remplit ce rôle avec constance, humilité et loyauté, toujours au service du bien commun. Et lorsque Mme Poulin décidera un jour de ne plus être au service de la population, il ne fait aucun doute que, malgré ses petits pieds, sa remplaçante ou son remplaçant aura des très grands souliers à chaussée. Un merveilleux sourire à remplacer.
Merci.
Merci, M. Hubert, pour ce beau témoignage. Puis je pense qu'on est sûrement 2 ou 3 des élus autour de la table qui ont dû Mme Poulin dans nos classes du primaire qui vont nous montrer comment bien se brosser les dents.
C'est Mme Belden.
Ben, c'est Mme Belden, effectivement. Oui. Effectivement. Ça nous amène donc je l'ai dit tantôt, au rapport des responsables pour les travaux publics. M. Leblanc, c'est à votre tour.
Oui, dans le fond, c'est pas un rapport, c'est plus comme encore là. Les travaux publics, donc je vais prendre la lecture. Il est aujourd'hui impératif d'abandonner certaines méthodes désuètes et d'investir dans le développement des compétences de notre équipe de la voirie municipale. Les tâches que doivent assumer les employés ne peuvent plus se limiter à des compétences de base. Les réalités actuelles exigent plus de spécialisation, de rigueur, de coordination. Depuis plusieurs années, les rapports administratifs transmis au conseil contiennent des constats clairs et récurrents, il devient donc essentiel d'agir en cohérence avec ces constats pour prendre des décisions éclairées. Historiquement, les tâches principales des employés de la voirie étaient centrées sur le déneigement hivernal, une mission qu'ils remplissaient d'ailleurs avec excellence. Sur ce point, nous n'avons rien à envier à nos voisins. Toutefois, au-delà de cette expertise hivernale, leur rôle s'est limité trop souvent à remplacer des ponceaux. Or, un rapport du PIRL, produit par la MASC, qui servira de base à une demande de subvention, révèle que 75% des ponceaux sur le territoire de Ripon sont soit installés de manière inadéquate, soit considérés comme dangereux. Cette situation découle de techniques désuètes, souvent appliquées sans supervision technique appropriée. Afin de corriger cette lacune, un mandat avait été octroyé à une firme d'ingénierie. Cette étape exigée pour être admissible au programme PARL du MTMD nous permettra de déposer une demande de subvention couvrant jusqu'à 80% des coûts des travaux correctifs. Conscient des impacts bien réels sur la qualité de vie des citoyens, sur l'efficacité des opérations municipales, le directeur général a mandaté le directeur des travaux publics par intérim pour élaborer un plan d'entretien incluant le remplacement du granulat utilisé ainsi qu'un plan de nettoyage des fossés de la municipalité pour préserver nos routes. Ceci est un plan de longue haleine, mais nous travaillons chaque année à améliorer notre service routier. Parallèlement, une démarche de professionnalisation du service à la clientèle et de la gestion des plaintes a été amorcée. Les résultats sont déjà visibles sur le terrain. Le niveleur, la niveleuse passera désormais dans chaque secteur au moins une fois par mois. Pardon. Les citoyens seront informés à l'avance de la période de passage et invités à rappeler en fin de mois si la problématique subsiste. Ces informations seront intégrées dans une base de données de bons de correctifs mensuels qui nous permettra à terme de mettre en place un plan d'intervention. Ce virage stratégique reflète notre engagement ferme à améliorer la performance municipale tout en instaurant une culture administrative fondée sur la rigueur, la transparence et le service aux citoyens. Bien entendu, plusieurs défis demeurent, mais les fondations sont maintenant solides, les processus sont mieux définis et les résultats sont déjà tangibles. En poursuivant dans cette voie avec méthode, constance et détermination, nous continuerons à faire progresser notre organisation au service de l'ensemble de notre communauté. Merci.
Merci, M. Leblanc. Puis, comme l'a mentionné M. Leblanc, dans le fond, l'objectif, c'est de, par exemple, pour la livreuse, c'est de la passer de façon périodique à chaque mois, comme on vient de le statuer, pour éviter qu'on soit toujours en mode de, on soit en appel de soins parce que la route est brisée, donc on va en la passant tout le temps, ça permet de prévenir en fait là, donc un peu tout ça, puis ça va nous permettre à nous aussi d'avoir un rapport à chaque mois, de savoir où ça, la niveau de le passer, d'avoir des réponses aux citoyens, ben oui, nous on est passé telle date, ou non, on n'est pas passé à cause de tel XYZ, mais on va passer telle date, donc ça va améliorer la communication. Puis pour l'étude que M. Leblanc parlait, là, le PIRL là, qu'on a reçu de la MRC, donc elle est accessible, là, sur c'est public, là, cette étude-là, on l'a ici à la municipalité, si jamais vous voulez la consulter pour l'état de nos ponceaux et de nos routes. Ça nous amène au point 7.2, fourniture de sable granuleux pour les surfaces glacées saison, parce que malheureusement, il faut commencer à penser à l'hiver, donc saison 2025-2026, M. Woubolt encore.
C'est comme à toutes les années, on doit acheter du sable pour l'hiver de l'Atsumirut. Cette année, on va aller pour un total de 4500 tonnes de granulés. Donc, c'est une résolution pour donner la tâche à notre directeur général d'aller solliciter des prix pour ça.
Quelqu'un propose? Propose de recevoir. Quelqu'un demande le vote? Adopté. Et puis pour ce point-là, dans le fond, là, pour le sable granuleux, on va changer la composition de notre sable cette année parce qu'on l'a constaté dans les dernières années. Là, moi, depuis que j'habite à Ripon, j'habite dans le village, puis on voit les grosses roches, là, ça on réalise qu'on n'était pas du tout, mais pas du tout aux normes. Donc là, on va avoir un sable de meilleure qualité, un sable, en fait, qui, au printemps, va simplement rentrer dans le sol. Donc ça va éviter les balayages, la poussière qu'on voit depuis plusieurs années. Donc on va acheter un sel qui est de meilleure qualité, qui risque peut-être de coûter un peu plus cher, mais on va en utiliser beaucoup moins, en fait, aussi. Donc ça va beaucoup nous aider sur nos routes. Point 7.3, fourniture de sel de déglaçage pour la saison 2025-2026. Monsieur Hubert.
Encore, c'est le même comme le sable. Maintenant, c'est le sel l'hiver prochain. Il y a encore une résolution pour demander à notre directeur général d'aller solliciter les prix pour ces 220 tonnes de sel.
Proposé par M. Leblanc. Quelqu'un demande le vote? Adopté. Ça nous amène au point 7.4, donc acceptation de l'offre de service pour la préparation d'une demande de subvention au FAR volet 4, coopération intermunicipale. Donc ça, c'est un point qui va être récurrent là, dans les prochains points. Je vais vous l'expliquer tout de suite pour qu'on puisse bien comprendre vers où on veut aller avec ça. Dans le fond, les subventions FRR, c'est des fonds qui sont admis par le gouvernement du Québec de façon périodique à chaque quelques années. C'est des fonds région-ruralité, FR, fonds région-ruralité, pour la coopération intermunicipale, mais qui sont dédiés aux municipalités qui sont considérées dévitalisées. Malheureusement, Ripon n'est pas considéré comme une municipalité dévitalisée, ce qui fait en sorte que nous, on n'a pas accès en temps normal à ces subventions-là. Une municipalité, par contre, comme Chinéville et Saint-Cyr, qui sont nos voisins, qui sont considérés dévitalisés, qui sont cotés dévitalisés, eux peuvent appliquer sur ces subventions-là. Ça tombe bien parce qu'on a déjà des ententes intermunicipales avec Saint-Sixte et avec Chénéville. Donc, s'il y en a qui se demandaient pourquoi, par exemple, l'an passé, on a décidé de faire le déneigement à Chénéville. En fait, c'est parce que ça nous donne un peu de sous. Ça permet à Chénéville de payer un peu moins cher qu'avec un privé aussi. Puis nous, ça nous donne des moyens. Mais ça nous permet justement d'appliquer sur des subventions comme le FR volet 4, qui peut venir payer, nous donner jusqu'à 350 000 $ pour l'achat d'équipement. Donc, nous, on s'associe avec Chénéville, on s'associe avec Saint-Sixte. On fait des demandes ensemble, ça nous permet de pouvoir accéder à des achats. Un peu plus tard, dans les autres résolutions, vous allez voir quel genre d'achat on va faire avec ça. Je peux quand même en parler très rapidement. L'objectif de cette subvention-là, ce serait d'aller acheter. Vous avez sûrement vu dans les derniers mois, on a parlé qu'on achèterait deux petits camions 6 roues pour faire le village ici et le village de Chénéville. Donc, ces deux camions-là, qui sont quand même 200-250 000 $ le camion, seraient payés à 50 % par la subvention. Donc, on paye nos camions à moitié prix. On mettrait aussi dans l'offre une pelle qui irait à Chénéville, une pelle usagée qu'on va acheter plus tard dans une autre résolution pour mettre le sel et le sable à Chénéville. Et ce serait un équipement qui resterait à Chénéville, mais qui nous appartiendrait, qui serait payé à 50 % Et puis, en échange, parce que nos voisins sont quand même très gentils de nous laisser faire cette demande-là en leur nom, on ferait également le compost à Chénéville et à Saint-Sixte, seulement le noyau villageois pour les rangs. Et puis, eux, à travers cette subvention-là, on essaierait de faire l'acquisition de leur bac de compost. Et en échange, nous, on ferait la récolte de leur bac. Donc, on récolterait aussi des sous avec la récolte du compost. Puis, Chénéville, c'est sur notre chemin, on va chez Pursol. Donc, ça ne nous allonge pas beaucoup, ces deux petits villages. Donc, tout ça nous amènerait à une enveloppe de 700 000 $ mais qui serait subventionné à 50 % donc 350 000 $ qui reviendraient dans les poches de Ripon. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle pour nos citoyens qui vont payer nos équipements beaucoup moins cher. Donc, ça va nous permettre de donner plus de moyens pour autre chose. Et pour en revenir à cette résolution-ci, la 7.4, en fait, là, c'est pour permettre au groupe consultant Le Portage Inc. À nous aider à déposer l'offre de service, là, parce qu'on a jusqu'au 22 août pour déposer cette subvention-là. Et puis, c'est au coût total de 4 500 $ répartis en deux versements de 2 000 $ à la signature et 2 500 à la fin du mandat. Donc, c'est une firme qui va nous aider, c'est une firme spécialisée, qui sont habitués avec ce genre de demande de financement-là, et ils vont nous aider à remplir cette demande de financement-là. Quelqu'un propose? Proposé par Mme Poulin. Quelqu'un demande le vote? Adopté. 7.5, qui est un avis de motion, toujours dans le même ordre d'idée. Un règlement d'emprunt pour l'acquisition justement des deux camions avec équipement ajusté selon l'approbation d'une subvention au FR volet. Donc, il faut simplement mentionner qu'on aimerait faire un règlement d'emprunt dans le cadre de la subvention FR volet 4 de deux camions neufs à 6 roues motrices avec équipement destiné à la division des travaux publics de la municipalité. Et ce règlement aura pour objet d'autoriser une dépense maximale pour l'acquisition de ces véhicules-là, d'autoriser un emprunt à long terme pour financer cette dépense, d'établir les modalités du financement résiduel et de permettre la conclusion d'une entente intermunicipale de Cochéan avec la municipalité de Chénéville. Et une copie du projet du règlement va être disponible pour consultation ici à la municipalité dès le dépôt de l'avis de motion. Qui propose l'avis de motion?
Je propose.
Monsieur Volt. Ça nous amène au point 7.6, acquisition d'une débroussailleuse MTI Leader Plus 505, acceptation de l'offre TerraPro AG Plaisance. Monsieur Leblanc.
Oui, en fait, la débroussailleuse municipale n'est plus en fonction, donc on doit financer un nouvel équipement qui est une débroussailleuse pour entretenir tous nos terrains, nos routes. Donc, on aurait une entente avec TerraPro AG Plaisance, qui est un vendeur d'équipements agricoles ou municipales. C'est une offre de location, mais qui va finir en achat, là, comment le décrire, mais c'est une débroussailleuse au montant de 47 800 $ plus taxes. Donc, considérant les modalités de location achat proposées par le fournisseur, incluant plusieurs options de financement au taux d'intérêt variant entre 6,3 et 6,55 avec une résidu de 1 $ à la fin de la période. Je propose que le conseil municipal accepte l'offre.
La vieille, je ne rappelle plus, c'est vieux.
Qui propose? Monsieur Lan propose, moi aussi. J'étais inattentif. Quelqu'un demande le vote? Adopté. Et juste un petit supplément pour cette résolution-là. Dans le fond, notre débroussailleuse qu'on avait, elle était en mauvais état. On a fait évaluer pour la faire réparer, ça coûtait 15 000 $ pour une débroussailleuse qui est très vieille, qui avait des pièces un peu à manche, un peu n'importe comment. En fait, la location va nous coûter à près de 10 000 $ par année. Donc, on s'est dit que ce serait plus avantageux de vendre cette débroussailleuse-là. Puis on aura le prix qu'on aura en la vendant aux encans et d'en avoir un autre. Ça fait partie un petit peu de la vision qu'on se donne de remplacer nos machines qui sont avant qu'on respire, puis lorsqu'on va en avoir besoin, on va en prendre une plus récente. 7.7, mandat pour une demande de soumission, donc acquisition d'une rétrocaveuse usagée dans le cadre du FR volet 4. Monsieur Woubault.
Oui, un de nos deux rétrocaveuses, ce qu'on appelle communément un macro, ne respecte plus les exigences de sécurité de la SNF, alors on doit la remplacer. Et puis, l'idée, c'est qu'on va la faire placer avec un qui est usagé et qu'on va dédier la nouvelle usagée qu'on va prendre pour l'utiliser à Chénéville dans l'optique des opérations du déneigement de Chénéville. Donc, il va être, espérons-le, assujetti au progrès, au volet.
Ouais.
Pour une subvention. Donc, la résolution, c'est pour donner un mandat à notre directeur général et notre directeur des services de voirie, travaux publics, d'entamer ce processus-là puis retrouver un bon candidat d'équipement.
Qui propose?
Je propose.
Sous Bolt, quelqu'un demande le vote? Adopté. Il faut dire, comme le mentionné M. Bolt, cette rétrocaveuse-là, en fait, là, c'est la CNSST qui l'ont sortie de service parce qu'elle était trop dangereuse pour nos employés. Donc, on n'avait vraiment pas le choix d'agir. C'est quelque chose qu'on a su récemment, malheureusement. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de l'inclure dans cette subvention-là. Heureusement, une subvention. 7.8, un avis de motion concernant les frais de branchement au réseau d'aqueduc. Donc, c'est un avis de motion qui va être présenté pour adoption lors de la séance du mois prochain. C'est un règlement qui aura pour objet de définir des conditions et responsabilités applicables à tout branchement d'un immeuble au réseau d'aqueduc de la municipalité de Ripon, d'établir une grille tarifaire claire et prévisible tenant compte des coûts réels encourus par la municipalité, donc excavation, matériaux, main-d'œuvre, réfection, de la chaussée, etc., de fixer les obligations en matière de permis, supervision des travaux et conformité aux normes municipales et provinciales en vigueur et de structurer les démarches administratives entourant ces demandes-là de branchement à l'aide d'un formulaire officiel accompagné d'une estimation des coûts et d'un dépôt préalable. Donc, le projet de règlement prévoit notamment des tarifs distincts selon les types de branchements, la distance à excaver, la nature du sol, les réparations à effectuer sur le domaine public. Donc, la copie du règlement va être mise à la disposition des membres du conseil et pourra être consultée ici là, par les citoyens à la municipalité. En fait, c'est qu'on a eu une demande à ce niveau-là. On a dit que la municipalité, on n'avait pas de règlement pour le faire. C'est quand même assez particulier. Donc, on va proposer un règlement là, qui va être adopté à la prochaine séance. Qui propose les motions? Monsieur Bock. Merci. 7.9, donc collaboration intermunicipale, dépôt d'une demande d'aide financière au Fonds Région et Ruralité, volet 4, coopération intermunicipale pour les services de déneigement et de compostage. Comme je le mentionnais tantôt, les municipalités de Ripon, Chenéville et Saint-Cyr désirent renforcer leur collaboration en matière de déneigement et dans une perspective d'optimisation des ressources, de réduction des coûts et d'amélioration de la couverture territoriale. Et on a une résolution pour que le conseil municipal s'engage à participer activement à ce projet de coopération intermunicipale avec Chenéville et Saint-Cyr et à assumer une part des coûts liés à la mise en œuvre du partage des services de déneigement et de cueillette du compostage, que la municipalité de Ripon agisse à titre d'organisme responsable du projet et procède au dépôt de la demande d'aide financière auprès des ministères des Affaires municipales et de l'Habitation, et que le maire et le directeur général soient autorisés à signer tout document relatif à cette demande. Donc, comme vous pouvez voir, la résolution le dit, c'est nous qui vons compléter la demande, même si ce n'est pas nous qui est la municipalité qui va qui l'a considéré dévitalisée. Heureusement, M. Dufour, il y a une grande expertise en demande de subvention, comme on l'a pu le voir dans les derniers mois. Donc, c'est engagé. Nous, on se dit qu'on pourrait le faire pour ces deux municipalités-là. Et puis, c'est juste, dans le fond, pour dire une raison pour dire qu'on s'engage à le faire. On sait que le gouvernement du Québec pousse les municipalités de plus en plus à faire de l'intermunicipal. C'est la voie de l'avenir. Il faut s'entendre entre les municipalités, il faut se partager des services, il faut se partager les coûts. Il faut arrêter de penser, je pense, juste pour son chez-soi. Puis ces genres de subventions-là vont dans ce sens-là. Donc, c'est pour ça qu'on s'engage à le faire. Qui propose?
Je propose.
Posé par M. Saulnier, qui a une demande de vote. Adopté. Ça nous amène à la section 8, aménagement, urbanisme, milieu de vie et environnement. Ça nous amène au point 8.2, acceptation d'un contrat de service, évaluation de la valeur marchande actuelle du lot 6,584,836, chemin de la montagne. Madame Poulin.
Oui. Alors, c'est pour donner un contrat de service pour évaluer le terrain, le dit terrain sur le chemin de la montagne. Alors, c'est avec la firme Proval, alors, pour une évaluation du lot 6,584,836, chemin de la montagne. Alors, les coûts sont de 977,29, incluant les taxes.
Qui propose?
Je propose. Proposer.
Quelqu'un demande le vote? Adopté. Et puis, en fait, ce point-là, c'est que lorsque les gens font des lotissements, lorsque il y a des gens qui veulent développer des terrains, qui veulent vendre des terrains, sont dans l'obligation de soit donner un montant à la municipalité, un pourcentage de leur lotissement, soit en argent ou en terrain. Et puis, notre urbaniste qui a eu une belle idée, en fait, ce serait de peut-être faire l'acquisition d'un terrain pour agrandir ce don de terrain-là, pour en faire un parc qui serait comme près du lac Viceroy. Ça permettrait aussi à la municipalité de faire une aire protégée dans ce coin-là. Mais on s'est dit, avant de décider si oui ou non on achète un terrain, on veut savoir si la valeur demandée, on veut que les payeurs de taxes payent le meilleur montant possible pour le terrain. Donc, on va faire évaluer le terrain pour voir si le prix demandé est juste. Point 9, sécurité publique, sécurité incendie, SQ et sécurité civile. Rapport des responsables, est-ce qu'il y avait quelque chose à dire ce mois-ci?
On n'a pas de rapport, M. le maire, mais je voulais juste... Il fait très sec ces derniers temps, et annonce encore très sec. Alors, j'ai juste vérifié, l'indice sur le feu est élevé à Ripon en ce moment. Donc, il n'y a pas de restriction, mais il faut faire attention.
Pour en référence avec les feux d'artifice dont on a parlé tantôt, là, c'est un moment critique, il faudrait respecter le
règlement. Oui, merci pour la précision. 9.2, acceptation de l'offre de service accompagnement en sécurité civile par la firme Prudent, M. Saulnier.
Oui, concernant que la municipalité de Ponce souhaite poursuivre l'amélioration de son plan municipal de sécurité civile et renforcer les compétences de son organisation municipale en matière de sécurité civile. Considérant que cette démarche-là s'inscrit dans le cadre d'un regroupement de 4 municipalités de l'Outaouais, soit Lac-Simon, Chenéville, Montpellier et Ripon, visant une approche concertée et structurée. Il y a une offre de service qui a été déposée le 18 juillet 2025. Cette offre repose en 4 phases. D'abord, une rencontre de démarrage. Ensuite, une formation de base en sécurité civile et un exercice de table dirigé. Une rencontre conjointe du comité de sécurité civile regroupement, donc en phase 4.
C'est plus nous autres, Montpellier.
Considérant que le coût prévu pour la municipalité de Ripon est de 2214 $ plus taxes. Ça, c'est pour la phase 3, donc jusqu'à la phase 3, j'imagine. En plus d'une quote-part applicable aux autres phases du projet. OK. Donc, le conseil municipal accepte l'offre service de la firme Prudent telle que déposée le 18 juillet. Voilà.
Vous proposez?
Je le propose.
Quelqu'un demande de vote? Adopté. Ça nous amène à la section 10. Loisirs, sport, culture, famille, aînés, orientation du parc des Montagnes Noires, rapport des responsables, M. Bock.
Oui, donc, j'ai pas mille affaires à dire, mais quand même quelques petits trucs. Vu qu'on est au mois d'août, ben, le festival de Trail, ça s'approche, vu que ça va être à la mi-septembre. Je vous invite, j'invite tout le monde à se procurer les billets. La programmation est en ligne aussi pour voir tous les groupes, donc... comme c'est un événement, c'est un des gros événements de Ripon pour l'année 2025 que je vous invite à participer. Le symposium d'Art Institut, ça avance, là, on en parlait, là, les œuvres commencent. Le béton va être coulé demain, c'est ça que je comprends. Donc,
mercredi.
Merci. Donc, ça s'en vient. Les dates, Mme Poulain?
C'est à partir du 3 septembre.
À partir du 3 septembre.
Oui. Parfait.
Puis, encore une fois, à la coop, il y a toujours les activités. Ils ont même une programmation qu'ils ont faite pour l'été au complet. Je ne savais pas, mais vous pouvez la consulter. Puis au café, il y a encore des activités. Je sais que déjà en fin de semaine, il y avait une discothèque gothique qui avait lieu au café. Puis, aussi dire que le bord des Montagnons est en vacances durant tout le mois d'août. Donc, vous ne pouvez pas aller au bord des puis sinon, c'est pas mal ça.
Parfait. Juste un petit ajout, j'ai oublié de même le dire aux conseillers. On a eu une communication la semaine dernière. On a l'émission de télévision au cœur de mon village qui est venue à Ripon pour faire une capsule de 30 minutes sur la municipalité. Ils s'intéressent au dynamisme. Ils vont venir, ils sont venus rencontrer les gens du Festival Trad, sont allés au Café des Orties, sont allés au marché public, sont allés aussi rencontrer les artisans à la fête du boulanger. Donc, à l'automne, ça devrait sortir là, une émission qui est consacrée au village, au dynamisme de Ripon. Toujours dans la présentation des conseillers, donc on va passer la parole à Mme Sivouflin qui va présenter oui. M. Bock.
Parfait. C'est avec plaisir là, que je vais vous présenter notre conseiller numéro 1, M. Jonathan Bock. Tu vas voir, c'est gênant. Ça me fait vraiment plaisir de vous le présenter. Alors, profil général, M. Bock est une figure bien connue à Ripon. Il est propriétaire d'une charmante bouquinerie au cœur du village, un lieu de culture, de discussion et de rencontre. Mais au-delà de son amour des livres, il est également professeur et consacre son quotidien à l'éducation des enfants dans une municipalité voisine. Son double engagement, à la fois localement et dans le milieu scolaire, témoigne d'une grande sensibilité humaine et d'un profond attachement aux valeurs de transmission et de savoir. Alors, M. Bock joue un rôle actif dans notre gouvernance municipale. Il siège notamment sur les comités suivants: loisirs, sport, culture, famille et aînés, incluant orientation du parc des Montagnes Noires. Sécurité publique, service de sécurité incendie, Sûreté du Québec et Sécurité civile. Depuis, il représente la municipalité comme remplaçant au Conseil des maires de la MRC de Papineau. Il peut siéger dans d'autres commissions ou régimes municipaux en l'absence du maire. Style de leadership. Très impliqué dans le domaine communautaire, Jonathan Bock est une personne d'une grande rigueur intellectuelle. C'est un homme réfléchi, méthodique, dont les interventions en conseil municipal sont toujours empreintes de lucidité et d'équilibre. Il ne prend jamais la parole à la légère. Chaque mot est choisi avec soin, chaque idée est pesée et son analyse pousse toujours le conseil à voir plus loin et à penser autrement. Père Foura local. On pourrait dire de lui qu'il est notre père Foura local riponnais. Non pas pour son âge, bien entendu, mais pour sa sagesse, sa capacité à poser les bonnes questions et à mener les gens à réfléchir par eux-mêmes. Son regard analytique, sa capacité à prendre du recul et à envisager les enjeux sont tous les angles qui font de lui un pilier discret mais essentiel au conseil municipal. Conclusion, M. Bock, Jonathan, incarne l'intelligence calme, la réflexion posée et l'écoute bienveillante. Il est la preuve vivante qu'on peut influencer grandement une équipe, non pas en parlant fort, mais en parlant juste. Merci, Jonathan, pour ta contribution à la vie municipale, pour ton implication soutenue dans la communauté et pour ta précieuse voix qui mérite toujours d'être entendue et surtout écoutée.
Merci, Mme Poulin. Ça nous amène au point 10.2, Festival Rue Contrade, de demande spécifique pour l'édition 2025. M. Bock.
Donc, festival à toutes les années. Fait qu'en même temps, à chaque fois qu'il y a un festival, les organisateurs ont des demandes à faire à la municipalité. Fait qu'à partir des demandes qui ont été faites, il y a des autorisations qui sont formulées par la municipalité pour l'édition 2025, qui sont celles-ci. La tenue du spectacle au Belvedere du Parc des Montagnes Noires, qui va être le samedi 13 septembre 2025 à 10h30. Donc, est-ce qu'il y avait des spectacles là l'année passée? Ou c'est
non. Ça, c'est une... C'est une primeur, personne ne le sait.
Vous savez, c'est
les premiers à savoir qu'il va y avoir des spectacles inusités cette année. Là.
Pas juste dans le village. Parce que l'offre de café, il va y avoir une offre de café sur le site, une gratuité d'accès au parc pour tous les festivaliers, la présence d'un guide du parc pour la randonnée encadrée, installation d'un chapiteau du festival au parc, puis en retour un chapiteau du parc au festival dans le village. Puis la possibilité d'utiliser le pavillon du chalet Stéphane Richer en cas de mauvais temps. Donc, je fais cette proposition au conseil.
Quelqu'un demande le vote? Adopté. Ça nous amène au point 10.3, don de nuitée dans les refuges des Montagnes Noires pour le tournoi de golf de la Coop Santé du Nord de la Petite Nation. Madame Poulin?
Oui. Alors, l'organisme Les Amis de l'Entraide du Nord de la Petite Nation, qui est une coopérative. Qui contribue pour la santé.
Ça, c'est la coop, oui.
Oui, c'est ça, pour la santé. Alors, elle nous demande de lui fournir pour son tournoi de golf annuel des cadeaux. L'année passée, on avait offert 2 nuitées à la Montagne Noire. Je pense qu'ils ont apprécié parce qu'ils nous, ouais. ils nous font encore la demande là, pour avoir 2 nuitées à la Montagne Noire. Alors, ça nous fait un grand plaisir là, de leur offrir ça pour leur tournoi de golf. Voilà.
Vous proposez?
Je propose.
Quelqu'un demande le vote? Adopté. Ça nous amène à la section 11, dossier divers. Il n'y a pas de dossier divers aujourd'hui. Point 12, affaires nouvelles. Toujours rien dans Affaires Nouvelles. Je devais faire mon rapport de Montréal Polymère, mais je l'ai fait au début. point 13, parole au public. Donc, si vous avez des questions concernant les points qui ont été discutés pendant la séance, c'est le moment.
Je regardais le bleu blanc, juste pour vous dire que ce qui est dans mes rêves, quand je vous entendais, je me disais, wow, mon Dieu, que ce serait une belle salle de pilotage. Ça serait un beau mur pour mettre des tableaux de bord. Parce que souvent, il y a beaucoup, beaucoup de mots qui sont dits, mais ça nous passe par une oreille et ça sort par l'autre. Tandis qu'avec un tableau de bord, on pourrait voir justement, avec un visuel, rapidement, l'évolution des dossiers de votre qualification stratégique que vous avez donné ce soir. Fait que c'était juste un commentaire.
Merci,
maintenant. Avancez dans votre belle, dans votre beau désir de faire en sorte que la structure administrative soit de qualité.
Merci, Mme Toudel. S'il y a d'autres questions, commentaires? Donc, ça nous amène au point 14, levée de la séance, qui propose, proposé par M. Bock, qui demande le vote. Adopté. Merci.
On ferme.
Ah oui, absolument. Merci.